merci. Merci tous les deux pour cette introduction où vous montrez bien les enjeux d'une telle université populaire. Moi, je veux dire que je suis très content, effectivement, de m'inscrire dans ce cadre parce que je partage tout à fait les valeurs que l'une et l'autre vous avez indiquées. Et ce genre d'entreprise me semble fondamental et effectivement me semble très nécessaire pour résister à la marchandisation des esprits. Le marché, oui, mais à condition qu'il ne soit pas totalisant, totalitaire. Et malheureusement, c'est un risque actuel très important. Alors, je vais vous présenter quelque chose qui sera forcément un peu synthétique, donc un peu schématique. Et je vous prie de m'en excuser à l'avance, mais si vous voulez, je vais essayer de tenir à peu près 45-50 minutes pour laisser justement pas mal de temps à la discussion, ce qui permettra d'affiner et de, effectivement aussi d'avoir un débat où vous pourrez exercer votre esprit critique. Je voudrais partir parce que cette année, beaucoup d'endroits, ça m'a été demandé, mais finalement, la 5e République existe depuis 50 ans maintenant. Quel bilan peut-on faire en matière de laïcité? Alors, je crois que c'est intéressant parce que si on veut envisager le devenir, l'avenir, il faut aussi se rappeler le cheminement que nous avons fait. Et ne pas résister à une certaine amnésie sociale. Il y a 50 ans à peu près, pas immédiatement au début de la 5e République, mais très vite, il y a eu la loi Debray en 1959. La loi Debray permettant de donner des aides très substantielles aux établissements privés qui passaient des contrats avec l'État, a suscité beaucoup de débats, beaucoup de contestations, beaucoup de remous à l'époque. Jean Cornec, qui dirigeait la Fédération Cornec des parents d'élèves, disait que cette loi était pire que les lois qu'avait prises Vichy. Et puis, à la commission Stasi en 2003, auquel j'ai participé, dans les politiques qui sont venus pour être auditionnés, certains d'entre eux nous ont dit, je ne vais pas citer de nom parce qu'il ne s'agit pas de viser tel ou tel, mais enfin, ça nous a été dit. On nous disait, il y a 20 ans, il n'y avait aucun problème de laïcité scolaire, c'est nouveau, etc. Or, 20 ans avant 2003, c'était 1983-1984, il y avait près d'1,5 million de personnes dans la rue sur un problème de laïcité scolaire qui était justement lié à la loi Debray et au projet, disons, de réunification dans un grand service public de l'éducation nationale. C'est un peu comme si, dans 20 ans, on lui disait, mais enfin, il y a 20 ans, il n'y avait pas d'affaire de foulard, etc. Enfin, c'était très significatif d'une certaine amnésie sociale. Mais au-delà de l'amnésie sociale, et peut-être ce qui explique cette amnésie, c'est que nous avons eu, et c'est pour ça que, disons, je commence par là, une mutation profonde de la laïcité en France sous la 5e République. La 5e République, dans sa constitution, réaffirme ce qui était déjà, disons, indiqué par la constitution de la 4e République, que la France est une république démocratique, laïque, indivisible et sociale. Elle ajoute à cela, ce qui n'était pas dans la constitution de la 4e République, mais bon, sans doute quand même, la 4e République ne voulait pas aller contre cela, elle ajoute, elle respecte toutes les croyances. Donc, réaffirmation de la laïcité comme réalité constitutionnelle, explicitation que la laïcité est quelque chose d'apaisé, une forme apaisée de laïcité. La laïcité, un peu comme dépassement du conflit des deux France. Alors, je ne vais pas revenir sur l'en deçà, parce que, évidemment, à ce moment-là, on n'en arriverait jamais à l'époque actuelle. Mais disons que dans le conflit des deux France qui a amené la construction de la laïcité, et c'est une des choses, moi, que j'ai reproché vivement au président Sarkozy, c'est d'avoir fait comme s'il n'y avait pas eu ce conflit des deux France, et donc de rendre incompréhensible pourquoi il a fallu inventer la laïcité comme solution d'un conflit. Si on nie l'existence du conflit, alors on ne voit pas pourquoi il faut trouver une solution. Bon. La laïcité comme dépassement du conflit des deux France, le conflit des deux France, comme d'ailleurs son nom l'indique implicitement, opposait deux visions de l'identité nationale. pour aller très vite, la vision de la France fille aînée de l'Église, la France de Clovis, la France de Pépin le Bref, parce que c'est Pépin le Bref qui a donné les états ecclésiastiques au pape. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu la formule « la France fille aînée de l'Église », et puis la France de la Révolution, la France des valeurs révolutionnaires, qui était finalement la France laïcisatrice, la France anticléricale. Et la solution qui avait été trouvée dans la loi de 1905 était, telle que je l'interprète en tout cas, une solution double, à la fois de dire que l'identité de la France est laïque. Bon, c'est pas tellement en 1905 la laïcité de l'État, parce que depuis, le code civil est déjà un code tout à fait laïque, et avec la Troisième République, cette laïcité avait été accentuée par un certain nombre de lois, dont les lois scolaires, évidemment. Bon. Donc l'État, en 1904, était déjà un État tout à fait laïque. Bon. Mais la loi de séparation, c'est plutôt la laïcité de la nation. L'identité nationale est une identité laïque, il n'y a plus de religion officielle, et en ce sens-là, la loi de 1905 est évidemment une victoire du camp des laïcisateurs. Mais en même temps, s'il n'y a plus d'église officielle ou même semi-officielle, plus de liberté est donnée aux églises. Le concordat, les régimes des cultes reconnus, étaient un régime d'étroit contrôle, on parle de gallicanisme, d'étroit contrôle des églises par l'État, et là, la législation, autant que faire se peut, devient le droit commun pour les églises. Donc, cette accentuation de la liberté, ou cette arrivée à la liberté des églises, amène la possibilité d'un apaisement, amène la possibilité d'une réconciliation, et un certain nombre de catholiques qui ont vécu douloureusement dans un premier temps la loi de séparation, parce que quand on est une église semi-officielle, comme l'était l'église catholique sous le concordat, c'est jamais agréable de perdre cette semi-officialité, se sont rendus compte au fil du temps que plus de liberté était donnée à leur église. Mais il y a eu quand même une queue de conflit importante qui est l'école, avec un déplacement. Ce n'est plus la légitimité de l'école laïque qui a été mise en question, elle était encore mise en question en 1925, il y avait un texte des évêques attaquant cette légitimité de l'école laïque, mais ça a été le dernier. Ce sont les subventions, disons, aux écoles privées, subventions qui ont commencé sous la 4e République en 1951, et que la loi Debré a accentué très fortement. Alors, ça, c'était il y a 50 ans. Il y a 20 ans, donc, un peu le dernier combat sur cette question, le dernier combat frontal sur cette question de la laïcité scolaire dans le cadre du combat des deux France. Donc, en 82-84, le projet de grand service public et laïque de l'éducation nationale, les militants laïques ont perdu ce dernier combat. Alors, pour quelles raisons ? Là, je vous l'ai annoncé, je suis obligé d'aller très vite. Mais en gros, je dirais qu'il y a deux raisons structurelles et une raison conjoncturelle. La première raison structurelle, c'est qu'il y avait eu, dans les années 60 et 70, une sécularisation importante de la société française. Baisse de la pratique religieuse, curés et religieuses qui ont abandonné pour la plupart leur habit pour s'habiller avec des habits civils, etc., etc. Bon, vieillissement du clergé qui commence sérieusement déjà à cette époque et qui s'est accentué d'ailleurs depuis avec un faible taux plus exactement de relais, disons, de jeunes qui deviennent eux-mêmes prêtres, et aussi dans les années 70, en tout cas, pas mal de prêtres qui quittent la prêtrise. La deuxième raison, donc, si vous voulez, cette sécularisation fait que l'Église catholique apparaît moins menaçante au niveau d'un danger clérical. La seconde raison, c'est l'aggiornamento de l'Église catholique elle-même avec Vatican II, une acculturation à cette sécularisation, une sécularisation interne, pourrait-on dire, et cela a eu des conséquences dans le climat de la plupart des établissements privés, où il est devenu plus facile, par exemple, d'enseigner Voltaire, si vous voulez, que dans les années 50. Bon. Et à ce niveau-là, donc, une unification des programmes a été faite, en tout cas dans pas mal d'établissements privés. Donc, si vous voulez, ces deux raisons structurelles faisaient que c'était difficile pour les laïcs d'arriver à réunifier les deux systèmes et qu'ils ne pouvaient réussir qu'en le faisant de manière très souple. Et la réforme Savary aurait pu réussir, parce qu'à un moment, elle a failli réussir. Elle aurait été, à mon avis, là encore, jugement que je dois dire de manière abrupte, un moyen de clore la querelle scolaire assez analogue à la loi de 1905, en remplaçant le dualisme par un certain pluralisme interne. Mais il y a eu Anvel Eniel, qui, député socialiste, qui a proposé 3 amendements. À partir de ce moment-là, à tort ou à raison, peu importe, le cardinal Lustiger a dit qu'il y avait un manquement à la parole donnée. Et il y a eu un basculement de l'opinion publique et donc la défaite du camp laïque. Et rapidement, après 1984, il y a eu un virage à 180 degrés, pourrait-on dire presque, du Parti socialiste, et qui s'est notamment concrétisé par les accords Lang-Kloupé en 1993, c'est-à-dire moins de 10 ans donc après cela. On peut dire donc que là, au niveau du conflit frontal, c'est la fin du conflit des deux France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du dissensus. Bien sûr, il y a du dissensus, mais dans toute société démocratique, il y a des tensions, il y a du dissensus, il y a des débats, il y a des désaccords. Mais disons que le conflit des deux France est ramené à des désaccords qui sont les désaccords habituels dans une société démocratique. Mais déjà, la loi Veil sur l'IVG au début de 1975 avait témoigné de cette baisse d'intensité du conflit, parce qu'on peut dire que l'Église catholique, du moins au niveau de ses représentants officiels, a fait un peu le service minimum. Elle a bien sûr réaffirmé son opposition à l'avortement, mais si on compare à la Colombie, à la Pologne, à d'autres pays, ce qui s'est passé après, elle l'a fait sans harcèlement, je dirais, de l'État, sans harceler l'État, que les catholiques eux-mêmes sont apparus divisés et qu'il y a eu des catholiques qui étaient favorables à la loi, même si, pour eux-mêmes, ils étaient hostiles à l'avortement, Dr Millès, par exemple, et qu'ils ont eu une visibilité publique assez grande, et puis que la loi elle-même a prévu une objection de conscience pour les gens qui, en conscience, les médecins qui, en conscience, ne pourraient pas avorter parce qu'ils considéraient personnellement l'avortement comme un meurtre. Et donc, cette loi a été assez emblématique d'une laïcité apaisée, et je dirais aussi, elle a été emblématique à un autre niveau, et ça qui est peut-être moins connu et moins familier. Il y a eu des débats pour savoir qui finalement prenait la décision d'avortement, du médecin ou de la femme. Bon, et finalement, on a décidé que c'était la femme. Et pour moi, c'est très important parce que si on avait décidé que c'était le médecin, c'était un nouveau cléricalisme qui s'installait. Et donc, à ce niveau-là, vous voyez, loi laïque, parce qu'elle sépare la législation de normes morales et religieuses, loi accommodante, puisqu'elle prévoit l'objection de conscience, loi d'avenir, puisqu'elle évite un nouveau cléricalisme. Mais donc, il y a eu la fin du conflit des deux France, et je crois que c'est très important pour comprendre la suite, c'est terminé par une défaite du camp laïque. On peut dire quand même que la laïcité a globalement gagné, si vous voulez, mais symboliquement et malgré tout, elle s'est terminée par une défaite du camp laïque, ce qui a créé à la fois de l'agressivité, de la rancœur, du désarroi. C'est jamais très agréable de perdre une bataille. Le mot d'ordre de laïcité ouverte a été lancé à ce moment-là. Et à ce moment-là, il signifiait, ce qui ne signifie plus forcément aujourd'hui, mais à ce moment-là, il signifiait de dégager la laïcité de cette défaite. Et justement, de gens comme Anvel Eniel, qui, par leurs exigences un peu maximales, avaient conduit à la défaite. Alors, pour vous montrer juste à quel point, si vous voulez, il y a eu un virage à 180 degrés, même de la part de certains intellectuels, je citerai l'ouvrage de Jean Boussinesque, à la fois membre de la Ligue de l'Enseignement et de l'Union Rationaliste, donc laïque, un peu inattaquable, si vous voulez, dans ses convictions personnelles, mais qui, en 1994, fait un ouvrage Memento juridique sur la laïcité française et qui dit que la loi Debray est laïque. Alors pourquoi il dit que la loi Debray est laïque? Parce qu'il insiste sur les deux exigences laïques de la loi Debray, qui est à la fois l'exigence de respect de la liberté de conscience, c'est-à-dire que ce qui est proposé comme confessionnel ne doit pas être imposé aux élèves si les élèves ne sont pas catholiques au niveau des écoles catholiques. méthodique, et puis l'exigence de respect des programmes, le même programme que celui de l'école laïque au niveau de l'activité générale. Mais alors, vous voyez, ce qui est très intéressant pour l'historien, c'est qu'on passe d'une insistance un peu unilatérale sur le caractère propre, qui avait été l'insistance dans les années 60 et 70, à une insistance aussi unilatérale, à mon avis, sur les exigences laïques de la loi de Bray, en oubliant, malgré tout, les problèmes du caractère propre. Donc, on passe un peu de l'extrême à l'autre. Alors, est-ce que, si vous voulez, on peut parler de fin de la laïcité, puisque elle a globalement réussi, et puis elle a échoué dans son aspect, finalement, de strict au niveau de la laïcité scolaire? Eh bien, non, vous le savez tous, en 1989, ça rebondit avec la première affaire de Foulard. Et c'est là la grande mutation, parce que ce n'est plus les mêmes problèmes, ce n'est plus les mêmes enjeux, et du coup, ce n'est plus exactement, du point de vue de l'historien et du sociologue, la même laïcité. Alors, l'année 1989 est une année charnière, parce que c'est l'année où le mur de Berlin va s'effondrer, donc c'est la fin, si vous voulez, du conflit Est-Ouest et de la menace, disons, que pour l'Occident, l'Est comprenait, mais c'est aussi l'année de l'affaire Rushdie. Donc, il y a un transfert de la menace, et l'affaire Rushdie symbolise, si vous voulez, un islam politique allant contre la liberté de penser. C'est le bicentenaire de la Révolution française, avec, vous savez, les historiens parlent d'invention de la tradition, et là, moi, je dirais qu'il y a une invention de la tradition du citoyen abstrait, ce qui ne veut pas dire qu'on n'avait pas parlé du citoyen abstrait de la Révolution, etc., mais on avait abandonné la Troisième République, que ne se réfère pas du tout au citoyen abstrait, au contraire, concrétise tout le temps le citoyen, notamment au niveau social, et là, on remet en valeur et on réinvente, si vous voulez, d'une nouvelle manière le citoyen abstrait. Enfin, quatrième événement, la loi Jospin sur les droits des élèves, qui donne la victoire, disons, à la conception démocrate de l'école plutôt que la conception républicaine. Là aussi, j'ai malheureusement pas le temps d'insister. Et le foulard, donc, charrie tous ces problèmes, et les problèmes aussi, évidemment, de la colonisation, de la décolonisation. Et on peut dire que le foulard apparaît emblématique pour certains, justement, des dérives de la dérive démocrate contre le citoyen abstrait, etc. Et de, finalement, l'affaire Rushdie, si vous voulez, la menace d'un islam politique contre la liberté de penser. C'est notamment le fameux moment où Régis Debray fait une opposition tranchée entre république et démocratie. Mais pour le moment, cette offensive, disons, républicaine ou néo-républicaine, a subi une défaite juridique, puisque l'arrêt du Conseil d'État dit qu'il y a compatibilité entre un foulard discret et la laïcité. Et que c'est simplement quand le foulard est porté de manière ostentatoire, et il y a quatre critères disons quand il est porté de manière ostentatoire, que le foulard peut être légitimement interdit en laïcité. Alors, cette solution a tenu pendant 15 ans, mais comme vous le savez, elle n'a pas tenu définitivement. Pourquoi elle n'a pas tenu? À mon avis, pour quatre raisons. D'abord, dès 1989, il y a un dissensus entre le juridique et le médiatique. Là, le Conseil d'État dit compatibilité du foulard discret. Les médias ne connaissent pas le foulard discret, parce que le foulard discret, par la définition, ce n'est pas médiatique. Tout ce qui est discret n'est pas médiatique. Donc le foulard, les médias connaissent, eux, surtout le foulard revendicateur, agressif, politique, etc. Et l'iconographie, notamment médiatique, est très claire. Si vous voulez, dans les journaux, dans les hebdomadaires, etc., il y a des articles des deux tendances. Mais si vous regardez l'iconographie est uniquement du côté du danger du foulard. Deuxièmement, il y a l'aggravation de la situation internationale. Dans les années 90, ne l'oublions pas, il y a une terrible guerre civile en Algérie entre les militaires et le Front islamique du Salut. Et dans cette guerre civile, il y a des atrocités des deux côtés. Du côté du Front islamique du Salut, il y a des femmes qui sont tuées pour avoir refusé de porter le foulard. Il va avoir après, évidemment, le 11 septembre, il va avoir Al-Qaïda, etc. Troisième raison, dans ce contexte, il va avoir une concurrence entre la gauche et la droite sur la laïcité. La laïcité, marqueur de l'identité française par la loi de 1905, oui, mais en fait, dans la réalité, marqueur surtout d'une identité de gauche. La droite progressivement accepte la laïcité, mais elle ne se sent pas identifiée par la laïcité. Or, en 2003, il y a le rapport Barouin, ministre de Jacques Chirac, qui dit « Mais la laïcité doit être une valeur de droite, c'est une valeur de droite, il faut la prôner, il faut la disputer à la gauche, il faut être plus laïque que la gauche, etc. » Et dans les enquêtes qui sont faites par des collègues de Sciences Po Paris sur la culture laïque des gens, la laïcité obtient des scores très très élevés. Plus de 80% des gens accordent de l'importance positive à la laïcité. Bon. Mais vous voyez très bien qu'il y a deux types de gens différents, deux profils différents. Un profil de gens qui, effectivement, ont une culture laïque, les items, les différents items auxquels ils répondent manifestent une culture laïque. Et un profil de gens où, si vous voulez, la défense et l'adhésion à la laïcité est inversement proportionnelle à la méfiance, à la peur, à l'agressivité face aux immigrés. Vous avez vraiment les deux profils. Et effectivement, ce problème. Alors, je ne veux pas dire que ça recoupe une concurrence entre la gauche et la droite, parce qu'il peut y avoir des gens du second profil dans la gauche et du premier profil dans la droite. Mais il n'empêche qu'à partir de là, il y a une concurrence politique, si vous voulez, entre la gauche et la droite sur la laïcité, qui est très différente, complètement différente d'avant. Avant, la concurrence entre la droite et la gauche sur la laïcité, c'était que la gauche se revendiquait comme laïque, et la droite modérait des deux fers et disait « mais quand même, l'école confessionnelle, c'est bien, etc. » Encore globalement, hein, à la louche. Et maintenant, c'est « je suis plus laïque que toi »,« non, c'est moi qui suis plus laïque », etc. Il va avoir, et donc, évidemment, on est dans une situation tout à fait différente. Et la quatrième raison, c'est la gestion calamiteuse, à mon avis. Vous voyez que je prends position tranchée, mais la gestion calamiteuse par l'institution éducation nationale, je ne parle pas des profs sur le terrain, mais par la gestion de l'éducation nationale en tant qu'institution du problème. Là aussi, je suis obligé d'aller très vite. Mais en 1994, le ministre de l'Éducation nationale dit aux proviseurs de prendre une circulaire faisant du foulard un signe ostentatoire lui-même, bon, ce qui contredit le Conseil d'État qui fait foi juridiquement. Bon. Du coup, vous avez des jeunes filles qui sont exclues à la suite de cette circulaire, puisque le proviseur, normalement, il fait confiance à son ministre. Bon. Et dans ces jeunes filles qui sont exclues, vous en avez quelques-unes, c'est ratifié par les tribunaux administratifs, parce qu'effectivement, elles étaient revendicatives, elles entraient dans les critères du Conseil d'État, et d'autres qui, au contraire, peuvent revenir à l'école. Il y a un double problème. Le premier problème, c'est que dans le mouvement de la judiciarisation, très souvent, le foulard s'est politisé, parce que le foulard était discret, mais à partir du moment où ça devient un enjeu juridique, des associations arrivent, des groupes de pression arrivent, etc. Premier point. Et deuxième point, vous ne pouvez pas demander à une adolescente de 16 ans qui a gagné contre son proviseur de revenir discrètement. Elle triomphe. Donc, c'est calamiteux, évidemment, pour les professeurs et les proviseurs qui voient leur autorité bafouée, disons, parce qu'ils ont obéi à la circulaire du ministre. À partir de là, la tendance de l'administration d'éducation nationale, ça va être dire plus d'ennui, plus de désaveu pour le conseil administratif, pour le tribunal administratif, donc tolérer, tolérer, tolérer. Et on ne respecte plus les balises du Conseil d'État. En fait, tendanciellement, je ne veux pas dire qu'on ne les respecte jamais, mais tendanciellement, il y a quand même une tolérance qui va au-delà de ce que proposait le Conseil d'État. Donc, ces quatre raisons... Au-delà, si vous voulez, de ces raisons, il faut dire aussi qu'on est dans un nouveau cas de figure. On est dans un tout... Bon. Et c'est normal qu'il y ait des tâtonnements. Et c'est normal que ça ne marche pas droit, facilement, etc. Et ça, je crois qu'il faut à ce niveau-là dédramatiser. On ne peut pas faire une mutation aussi grande que ce que témoigne la première affaire de foulard et les affaires subséquentes, si vous voulez, à partir de 89, sans que ça tâtonne, sans qu'il y ait des erreurs, sans qu'il y ait des problèmes, etc. Alors ça aboutit à la loi de 2004, que personnellement j'ai qualifié d'orgasme républicain. Bon, un terme qui, en tout cas, a été pas mal repris à l'étranger. Bon, alors, si vous voulez, je voulais dire qu'à la fois, effectivement, les républicains, après 15 ans, avaient avait enfin gagné, ça avait mis du temps à venir, mais que peut-être, après cela, il y aurait une détente. C'était pas impossible et je laissais ouvert la possibilité d'une détente. À mon avis, 5 ans après, puisque la commission Stasi, ça va faire 5 ans qu'elle a terminé ses travaux, oui et non, je dirais. Oui, il y a eu une détente, il y a eu la création de la haute autorité de lutte contre les discriminations, et il y a surtout le terme de diversité qui maintenant a un usage social tout à fait nouveau, qui n'était pas le sien il y a 10 ans. Diversité, ça veut dire diversité ethnoculturelle. C'est une manière euphémisée, disons, de parler de diversité ethnoculturelle. Et maintenant, vous entendrez parler de ça dans les médias, il faut des candidats issus de la diversité, il faut des gens issus de la diversité à tous les niveaux, etc., etc. Alors, d'ailleurs, avec un usage curieux, parce que vous avez finalement les normaux et les issus de la diversité. Alors que s'il y a diversité, tout le monde est inclus dans la diversité. Enfin, peu importe, si vous voulez, l'intéressant pour le sociologue, c'est de voir tout à coup un terme qui reçoit un usage social qu'il n'avait pas auparavant et qui devient tellement fréquent qu'on n'a plus besoin, disons, de s'expliquer, on peut en parler de manière allusive, tout le monde comprend. Mais en même temps, non, il n'y a pas de détente parce que l'islam est toujours ressenti comme une menace sur la laïcité. Régulièrement, il y a des affaires qui prennent une tournure nationale. Bon, là aussi, je n'ai pas le temps de faire écho à des affaires récentes, mais je pense que la plupart d'entre vous les ont en mémoire. Le problème et le malaise, si vous voulez, un peu que tout le monde a, quelles que soient les positions qui prennent dans cette affaire, et on peut avoir des positions diverses, c'est que derrière, il y a une sorte de nouveau conflit des deux France qui risque de se poindre. Et que c'est plus du tout les mêmes que le conflit qui a eu lieu jusqu'en 1984. Schématiquement, c'est un conflit entre vieux français et nouveaux français. Alors ça ne veut pas dire que les uns aient totalement tort et les autres totalement raison, mais il y a ce risque. Vieux français se réclamant d'une vieille France, je dirais. Alors cette vieille France, c'est à la fois la France de Clovis, et tout le discours sur les racines, sur l'héritage, etc., et la France des Lumières et des droits de l'homme, et c'est le discours sur les valeurs. Et la laïcité, alors justement, quand on privilégie le discours sur les racines, on doit la positiver, c'est la fameuse laïcité positive de Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy est nettement, lui, dans la prédominance du discours sur les racines. Quand on est plutôt dans le discours sur les valeurs, on n'a pas besoin de lui ajouter un adjectif, mais de toute façon, la laïcité reste dans cette affaire une valeur suprême de l'identité nationale. Et le problème, c'est que c'est une laïcité, là aussi je suis obligé d'aller très vite, mais c'est une laïcité qui est à géométrie variable, parce que c'est une laïcité très accommodante pour les vieux français. Parce que parmi les vieux français, il y a les Alsaciens-Lorrains, par exemple. Les Alsaciens-Lorrains, ils ont un concordat, ils ont des cultes reconnus, ils ont une école publique qui est confessionnelle. L'école primaire est régie par la loi Falloux et ignore la loi Ferry. Et donc voilà, ils font partie des anciens français et eux, ils ne sont pas suspects de déroger à la laïcité. De même, si vous voulez, tous les gens qui sont dans le circuit des écoles confessionnelles, ils sont quand même laïcs maintenant, ils sont parmi les anciens français. Et puis, il y a les nouveaux français, et les nouveaux français, là, on leur demande un examen de passage de laïcité. Et là, la laïcité est nettement moins accommodante, et c'est pas un hasard si les affaires de foulard ont été les plus dures en Alsace. Parce que on refuse le foulard au nom de la laïcité dans une école où il y a des cours confessionnels de religion protestante, catholique et juive. Il y a quelque chose où on ne voit pas forcément la cohérence interne très, très, très forte. Et si vous voulez, ça serait intéressant de visionner le petit film pour les immigrés. C'est très intéressant parce que la laïcité est intégrée à la devise républicaine. En fait, vous avez présentation d'immigrés, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Alors, moi, évidemment, j'ai rien contre. Mais est-ce que c'est pour les immigrés ou est-ce que c'est pour tout le monde que c'est intégré à la devise républicaine? Avec le degré d'exigence, si vous voulez, qu'on demande aux uns, est-ce qu'on le demande vraiment aux autres? De même, quelque chose qui d'un côté est réjouissant, mais qui de l'autre m'inquiète un peu comme sociologue, c'est quand on parle de l'égalité aux immigrés, on parle de l'égalité homme-femme. Très bien. Femme-homme, très bien. Bon. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi des discriminations dont il faudrait aussi parler, hein? Donc, si vous voulez, une présentation qui... tout va très bien, Madame la Marquise, en France, un petit peu quand même, bon, résume de manière schématique, mais un peu tout va très bien, Madame la Marquise, en France. Et donc, vous avez à vous intégrer, mais l'intégration est comprise uniquement comme attestataire. Bon. Et là aussi, c'est un changement, parce que l'intégration, traditionnellement en France, elle se faisait soit par l'Église catholique, soit par le Parti communiste et ses satellites. Donc deux organisations qui étaient assez critiques par rapport à la République, et qui ont, et pourtant ont été moyens d'intégration des couches d'immigration, si vous voulez, qui sont arrivées dans les deux premiers tiers, en gros, du XXe siècle. Et notamment, par exemple, pour ce qui est du Parti communiste, c'était avec la CGT à l'époque, avec toutes les organisations, mouvement de la paix, etc., etc. Bon, c'était à une époque où le Parti communiste se préférait à une URSS durée pure, voire à Staline à certains moments. Bon, c'était quand même une voie très contestataire par rapport à la République française, à l'époque traitée de capitaliste, d'intégration. Bon. Et là, l'intégration change de sens dans la mesure où elle est conçue de manière uniquement attestataire. Un autre problème, là aussi, dont il faudrait parler beaucoup plus longuement, et j'espère que vous m'éviterez les faux procès, mais malgré tout, justement, c'est un tabou, et il faut quand même lever le tabou, parce que ça crée de l'impensé, c'est qu'il y a une injustice entre confessions qui actualise une injustice historique. C'est-à-dire que parmi les populations qui viennent d'Afrique du Nord, il y a des musulmans, il y a des juifs. Les juifs, ils sont français depuis 1870. Ils sont anciens français. Pas les musulmans, ils étaient sujets. Et, si vous voulez, très souvent, actuellement, quand il y a des revendications de type communautaire, par exemple pour les piscines, des heures spécifiques pour les femmes dans les piscines, c'est d'abord les juifs qui commencent. À ce moment-là, il y a un silence complet dans les médias, pour une raison très compréhensible, qui est la Shoah, qui est l'antisémitisme, etc. Mais il n'empêche, bon, il y a silence dans les médias. Et puis, il y a des musulmans qui disent « et nous ?» On l'accorde à des juges séfarades, pourquoi pas à nous ? Et à ce moment-là, les médias démarrent, et c'est en première page des journaux. Et mettez-vous à la place des musulmans, ils le ressentent évidemment comme une injustice. La loi de 2004 est symptomatique à ce niveau-là, parce que la loi de 2004, juridiquement, met la kippa et le foulard sur le même plan, au niveau de la circulaire d'application. Mais en fait, c'est pas mis sur le même plan symboliquement, puisque le foulard est fustigé comme connotant l'inégalité homme-femme, aussi dans certains cas, pas forcément pas tout le temps. La kippa n'est consacrée comme, est considérée comme neutre au niveau d'égalité des sexes, alors qu'à la commission Stasi, quand on a demandé au grand rabbin la signification de la kippa, il nous a dit c'est parce que l'intelligence dans le cerveau ne peut pas être en contact direct avec Dieu, donc il faut une kippa. Mais alors pourquoi les femmes sont-elles kippa à ce moment-là? Donc, si vous voulez, s'il y a une ambiguïté des signes, elle se retrouve, bon, et puis on pourrait parler du fait qu'une femme peut pas être prêtre, etc., mais elle se retrouve dans plusieurs confessions. Or, symboliquement, seul le foulard a été stigmatisé par rapport à l'égalité homme-femme. Et puis, au niveau des conséquences concrètes, elles ne sont pas du tout les mêmes. Il y a déjà beaucoup d'écoles juives sous contrat. Donc, les jeunes qui veulent porter les kippas peuvent facilement aller à une école juive sous contrat. Et d'ailleurs, c'est un petit problème. Est-ce que c'était le rôle d'une loi laïque de favoriser des écoles confessionnelles? Et pour les musulmans n'avaient pas d'école sous contrat. Et la loi amorce le mouvement. Et d'ailleurs, il y a déjà une école sous contrat qui vient d'être contractualisée parce qu'elle avait le nombre d'années nécessaires. Bon. Alors, deux problèmes. D'abord, évidemment, une école sous contrat, peut-être demain, deux, parce qu'il y en a une seconde qui va approcher des 5 ans, ça n'accueille pas, évidemment, tous les musulmans qui souhaiteraient être dans ce genre d'école. Et là encore, est-ce que c'est du rôle, disons, d'une loi qui se veut une loi laïque, une loi de laïcité, de favoriser la création d'écoles musulmanes sous contrat et de mettre les jeunes filles à foulard dans ces écoles musulmanes? Question. En tout cas, bon, il y a un malaise, pour tout le monde, et ce malaise, de toute façon, ça ne sera pas facile de le résoudre, mais, si vous voulez, il demande, à mon avis, un certain courage intellectuel, bon, je sais bien que c'est mal vu de dire ça, mais en même temps, l'interdiction de démasquer, disons, un peu l'inertie intellectuelle, c'est aussi une forme insidieuse et terrible de censure. Bon, donc, à ces risques et périls, il faut essayer d'avoir ce courage intellectuel. Bon. Premier point qui me semble intéressant, c'est relire ce qu'écrivait Régis Debray en 1989. Parce que c'est quand même extraordinaire. Régis Debray, très fièrement, disait « Contrairement aux USA, la France n'a pas de sénateur noir. » Effectivement, les USA ont un sénateur noir et même il vient d'être élu président de la République. Alors, on comprend bien ce que voulait dire Régis Debray. Il voulait dire « En France, les gens ne sont ni blancs ni noirs, ils sont tous des citoyens abstraits, etc. » Le problème, c'est que l'idéal cache le réel. C'est que l'idéal cache le réel. Et que, en fait, justement, les sénateurs en France, ils ont une couleur de peau. La France a eu des sénateurs noirs, elle a même eu un président du Sénat noir, Monnerby. Mais aujourd'hui, où elle est plus colérée au niveau de ses habitants, effectivement, elle n'en a pas, peut-être, représentant des Antilles, etc. Mais enfin, elle n'a pas, disons, une diversité qui corresponde, pour reprendre le terme avec des guillemets, qui corresponde à ses habitants. Donc, autrement dit, le citoyen abstrait peut masquer le mur de verre des discriminations. Et c'est d'autant plus vrai qu'on a bien été obligé de s'éloigner du citoyen abstrait au sujet de l'égalité homme-femme. Quand on a modifié la Constitution parce que le Conseil constitutionnel refusait, disons, qu'on s'engage vers cette sexuation des citoyens, enfin, à dire que le citoyen était sexué. Le Conseil constitutionnel avait dit que c'était contraire, justement, à la règle républicaine. Et donc, il a fallu changer la Constitution, dire que la Constitution favorisait l'égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités politiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, selon la Constitution, le citoyen est sexué. Le citoyen n'est pas abstrait, il est sexuel, il a un sexe. Et donc, il faut en tenir compte pour voir justement s'il n'y a pas des inégalités qui sont faites entre sexes. Bon. Et d'ailleurs, Elisabeth Badinter, à l'époque, avait crié au communautarisme, elle avait menacé la France des pires turpitudes si jamais la loi passait. Bon, la loi est passée, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord avec cette loi. Moi, personnellement, je préférerais que ce soit une loi provisoire et qu'effectivement, au bout du compte, on n'ait plus besoin de cette loi pour que les choses se fassent naturellement. Mais il me semble que tant qu'elles ne se font pas naturellement, il faut quand même donner un coup de pouce volontariste. Bon. En tout cas, la République n'est pas morte parce qu'on a voté la loi sur la parité dans les années 2000. Alors, je dirais qu'on fait un peu en catimini quelque chose d'analogue au niveau de la diversité, enfin, catimini plus ou moins, des fois c'est médiatisé, etc. Mais il y a sans doute un tabou intellectuel à briser. Hein, un tabou intellectuel à briser. Il ne faut pas que l'idéal cache le réel. Il ne faut pas que l'idéal serve de menton de Noé pour couvrir les discriminations. Et donc, il faut avoir le courage de dire que effectivement. L'idéal du citoyen abstrait, c'est vrai, mais ça ne doit pas empêcher d'analyser les situations réelles, de les décrypter autant que faire se peut, de les déconstruire et de voir comment y remédier théoriquement. Le second problème, c'est les médias, si vous voulez. La perspective de la menace, la perspective du complot, la perspective est quelque chose de très médiatique. Alors, c'est pas forcément tout le temps complètement faux, si vous voulez. Et c'est ça qui est très embêtant, c'est que c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est réalité et qu'est-ce qui est amplification médiatique, qu'est-ce qui est grossissement, parce que plus on fait peur, plus on vend. Et il y a un cercle un peu vicieux où, si vous voulez, les médias font peur, et puis en même temps, les médias se font les héros du combat du bien, bon, et les gens sont reconnaissants aux médias de se faire le héros du combat du bien, alors qu'elles ont aussi créé le problème en l'amplifiant, en faisant peur, etc. Et donc, au bout du compte, on remercie les pyromanes d'avoir joué les pompiers, si vous voulez, dans un certain nombre de, dans un certain nombre de cas. Bon. Et c'est très difficile, en fait, dans une émission de télévision, de déconstruire la manière dont les choses sont présentées. Parce que, en fait, si vous voulez, y a souvent un fait réel au départ. Bon. Tout le problème est la pondération, c'est-à-dire. Est-ce que ce fait réel menace la République? Est-ce que c'est le danger principal? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres, etc., dont les médias ne parlent absolument pas bon. Et ça, comment voulez-vous l'expliquer en 3 minutes alors qu'on vous a mis un reportage qui accélère la menace et qui fait de l'inflation idéologique totale? Donc, il y a tout un problème, disons, et pour moi, une des principales menaces de la laïcité, c'est, je dirais, la crédibilité médiatique. Et il y a certainement tout un travail à faire des hussards noirs de la République pour justement apprendre aux enfants, aux adolescents, à pouvoir exercer leur sens critique face aux médias. Et puis, effectivement, des universités comme les universités populaires sont des lieux aussi où on peut parler autrement que dans les médias. Bon. Donc il y a tout un travail à faire. Il ne s'agit pas de priver les gens de télévision, bien sûr, mais il s'agit de faire le travail d'esprit critique que finalement Jules Ferry voulait faire à propos de l'écrit. Parce que l'explication de texte, c'était ça. C'était apprendre à avoir d'esprit critique par rapport à l'écrit. Il faut maintenant faire de l'explication de l'image, faire de l'explication d'Internet, faire de l'explication des médias, etc., pour que les gens maîtrisent, disons, ces nouveaux instruments et qu'ils ne soient pas intellectuellement désastreux. Le troisième problème, et c'est ça qui rend les choses aussi difficiles, c'est que la défense des Lumières peut tourner le dos aux Lumières elles-mêmes. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la phrase qu'on prête à Voltaire, il n'a pas dit, mais mettons que ce soit un résumé de sa pensée, « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez exprimer votre point de vue », elle est dialectique. « Je me battrai pour que vous puissiez exprimer votre point de vue, mais je ne suis pas d'accord avec vous. » Et donc, ça implique de pouvoir dire les deux. Et très souvent maintenant, on nous demande de nous solidariser avec des gens, quoi qu'ils aient dit, sous prétexte qu'ils sont menacés, etc. Et moi aussi, j'ai reçu des menaces de mort, j'en ai pas fait tout un cinéma. Mais si vous voulez, quelqu'un ne devient pas, la parole de quelqu'un ne devient pas sacrée sous prétexte qu'il est menacé. Bien sûr qu'il doit être défendu, et le droit à s'exprimer doit être défendu. Mais en même temps, ça n'empêche pas de faire l'analyse du contenu de ce qu'il dit, et si le contenu de ce qu'il a dit est manipulateur, de dévoiler cet aspect manipulation. Et donc, c'est un réel problème, et d'une manière générale, si vous voulez, il y a vraiment quelque chose, moi, que je trouve assez affligeant, c'est que depuis 25 ans, il y a toute une riche réflexion qui s'est faite sur la laïcité, dans plein de sens, d'ailleurs, hein, dans le sens de ce que je vous dis et d'autres, peu importe, et cette réflexion, d'ailleurs, s'est faite, c'est élargi à un niveau international. Et maintenant, il y a vraiment une réflexion internationale sur la laïcité. Et on a l'impression que le discours des médias, lui, ne bouge pas. Qu'il ne prend pas en compte cette réflexion, qu'il ignore ou qu'il ne veut pas le savoir. Bon. Et donc là, il y a un même problème intellectuel. Si je vais un peu plus loin, là, je constate que les Lumières, c'était une mise en cause de leur propre civilisation. C'était une mise en cause de la France chrétienne, telle qu'elle. Qu'elle avait existé jusqu'à présent. Et cette mise en cause, elle se faisait souvent par des références non occidentales. Confucius, hein, Confucius est un des gens que les Lumières valorisent. Bon. Alors, le marrant de l'affaire, c'est qu'ils les connaissent grâce aux jésuites, qui sont évidemment leurs ennemis. Et justement, ça, c'est tous les transferts culturels intéressants. Mais réfléchissez aux lettres persanes de Montesquieu. Hein. L'islam, là, un musulman, est pris comme analyseur de l'Occident. On a l'impression que, justement, il y avait un esprit critique à l'égard de soi-même et de sa civilisation qu'on est en train de perdre, qu'on a déjà largement perdu. Bon. Et si on analysait, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne, l'islam comme un analyseur qui amplifie, si vous voulez, nos problèmes et nos difficultés, hein, qui est moins la cause de nos problèmes et nos difficultés qu'un amplificateur. Bon, je crois que ça donnerait des résultats intéressants. Bon, quand je dis l'islam, c'est avec des guillemets, évidemment, il n'y a pas un islam, il y a plein de musulmans avec des tendances différentes, mais je suis obligé, évidemment, de faire quelque chose de schématique, je voulais l'avertir. Dans les Lumières, il y avait une confiance dans le progrès, il y avait une projection dans l'avenir. Maintenant, nous sommes confrontés, là aussi à tort ou à raison, peu importe, mais à un discours apocalyptique, hein, et tous les jours il faut essayer de sauver la planète, et c'est pas évident, hein, et à un avenir inquiétant. Un avenir inquiétant, et je suis très sensible par exemple au changement du terme de réforme. La réforme, pendant des décennies, ça voulait dire quelque chose qui permettait de vivre mieux. Maintenant, la réforme, ça veut dire s'adapter à un régime néolibéral qui fait qu'on vit moins bien. Bon, alors évidemment, on peut comprendre que les gens sont moins enthousiastes qu'auparavant. Bon. Et donc, il y a un réel problème parce que, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire se projeter dans l'avenir aujourd'hui ? Alors effectivement, on ne peut plus avoir confiance dans le progrès à la même manière que les Lumières, parce qu'il y a eu 3 siècles qui sont passés. Mais il n'empêche que l'exigence des Lumières de se projeter dans l'avenir, pour moi, demeure, si vous voulez, dans d'autres conditions qu'au moment des Lumières, mais qu'il faut aussi inventer du nouveau, comme les Lumières ont inventé du nouveau. Et là, c'est là que le nouveau, c'est aussi que la France est devenue interculturelle, qu'elle change, comme toujours. Là encore, il y a des tâtonnements, il ne faut pas s'en étonner, mais il y a la nécessité d'organiser un véritable débat où chaque perspective ait ses chances, et c'est là où donc moi je propose de construire une laïcité interculturelle. Alors, en clarifiant ce qu'est et ce que n'est pas une laïcité démocratique. Bon, et alors là, je crois qu'il faut résister au dictat comme quoi on n'aurait pas le droit d'ajouter un adjectif à laïcité, on a le droit d'ajouter tous les adjectifs. L'important, c'est que l'adjectif n'enlève pas la consistance au terme. Le problème de quand Sarkozy parle de laïcité positive, c'est pas l'expression en elle-même, c'est qu'il veut plus parler de quelque chose qui serait positif que de la laïcité. Et qu'il évacue le substantif, si vous voulez, par l'ajout d'un adjectif. Alors, il ne faut pas évacuer le substantif. La laïcité a la consistance, etc. Mais face, par exemple, au kémalisme, qui est une laïcité de type militaire, le fait de parler de laïcité démocratique me semble pas de trop. Alors, la laïcité n'est pas la sécularisation. Et la laïcité n'impose pas la sécularisation par le haut, parce que la sécularisation dépend de la dynamique sociale. Bon, là aussi, c'est très long à expliquer, Bon, par exemple, l'invention de l'horloge au Moyen-Âge a été un facteur de sécularisation, parce qu'avant, c'était les prières qui rythmaient le temps, c'était la cloche de l'église qui rythmait le temps, etc. Ça ne correspondait plus à certaines nécessités sociales, et on a inventé l'horloge, facteur de sécularisation. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a dit « ben, on va inventer l'horloge pour séculariser ». Ça a été une conséquence de par la dynamique sociale, qui a fait que le temps s'est moins référé à du religieux. La sécularisation, donc, on ne peut pas l'imposer de l'extérieur. Et elle progresse chez les musulmans d'Europe et d'ailleurs. Et je crois qu'à ce niveau-là, il faut lire les analyses, par exemple, d'Emmanuel Todd, ses 2 derniers livres, Le rendez-vous des civilisations, Après la démocratie, parce qu'il montre bien que la sécularisation progresse, y compris dans les pays musulmans. Y compris dans les pays musulmans, et que les mouvements radicaux islamistes, etc., c'est face à ça qu'évidemment ils se braquent et ils ont des réactions extrémistes. C'est face à une sécularisation qui progresse dans le monde musulman. Et en France même, quand on voit les indicateurs, justement tout ce qui se joue autour de la femme comme enjeu social, concerne souvent la sécularisation. Et là, au niveau des jeunes maghrébines, là encore avec guillemets, parce qu'il faudrait nuancer et diversifier, bah, mais elles font plus d'études que leur mère. Elles se marient plus tard que leur mère, elles ont moins d'enfants au même âge que leur mère, et elles entrent dans le marché du travail beaucoup plus que la mère. Tous les clignotants sont verts. Non ? Alors, en même temps, comme c'est la génération, justement, de la mutation, elles en prennent plein la figure. Ça, il ne faut pas être angélique non plus, etc. Et il y a un sexisme, évidemment, qui est à la mesure, disons, de cette mutation. Et, alors, comment faire pour, évidemment, faire que cette période de transition très difficile pour ces jeunes filles se passe le mieux possible, mais en même temps, justement, on peut d'autant mieux le faire qu'on est optimiste dans le long terme et qu'on sait que cette période de transition vers une émancipation. Vers une émancipation, et que c'est pas qu'on est en train de régresser vers un Moyen-Âge qui d'ailleurs était beaucoup plus compliqué que ce qu'on dit quand on parle de régression vers le moyen âge. Donc, il faut arriver à bâtir, moi je dirais, un nouvel ordre public laïque. Alors, un nouvel ordre public laïque, c'est le respect de la liberté de conscience, c'est la séparation du religieux et du politique, et du juridique, si vous voulez, et du religieux, le fait que les normes morales et religieuses peuvent être adoptées sur le plan personnel, mais non pas être imposées, mais c'est aussi l'égalité entre citoyens, quelle que soit l'appartenance religieuse ou non religieuse, quelle que soit l'origine, etc., c'est-à-dire aussi la non-discrimination. Donc il faut arriver, et c'est pas évident, à faire marcher ensemble ces trois critères de liberté de conscience, de séparation et d'égalité entre citoyens, mais entre citoyens maintenant qui ont des degrés divers de sécularisation et des attitudes diverses vis-à-vis de la sécularisation. Et tant qu'ils ne transgressent pas les lois et tant qu'ils sont dans ce qu'on appelle la tolérance civile, on n'a pas à leur imposer un type de religion plutôt qu'un autre. Et toutes par exemple, le mot d'ordre d'islam républicain, c'est pas un mot d'ordre laïque. En 1905, on n'a pas demandé au catholicisme d'être républicain. Il l'était pas dans une grande mesure. Mais par contre, on lui a demandé de se séparer et de plus être officiel. Et donc, je crois qu'il faut vraiment tenir bon sur cette distinction entre laïcité et sécularisation et ne pas imposer, disons, une sécularisation accentuée à un autre rythme que celui que les gens veulent vivre ou d'une autre manière que celle que les gens veulent vivre, parce que leur degré de sécularisation, ça fait partie de la liberté de conscience. Ça fait partie de la liberté de conscience. Ce que peut faire la laïcité, encore une fois, c'est un ordre public laïque où l'ordre public fonctionne justement sans référence à des normes religieuses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les gens ont tout à fait le droit d'être contre l'avortement, par exemple, les gens ont tout à fait le droit de ne pas avorter. Là où ça devient délictueux, c'est s'ils vont faire du bazar dans des cliniques où on pratique l'avortement, parce que l'ordre public est laïque et que donc l'avortement est licite dans l'ordre public. Mais après, l'attitude personnelle des gens face à l'avortement, elle est libre. Elle est libre. Et moi, je le dis d'autant plus qu'une fois, bon, il y avait quelqu'un, un maire, qui voulait ne pas donner le permis de construire à quelqu'un qui voulait faire un édifice religieux. C'était d'ailleurs pas une mosquée, c'était pour une autre religion, sous prétexte que le prédicateur était contre l'avortement. Ben, c'est son droit. C'est son droit. Tant qu'il ne désobéit pas aux lois, il a tout à fait le droit et il devait l'accepter. Bon, ça fait partie de la démocratie. Donc, il faut arriver à bien gérer les choses. Et c'est là où, justement, l'exemple québécois est intéressant, parce que l'exemple québécois, c'est de laïcité avec accommodement raisonnable. Alors, on peut dire, par exemple, que la loi veille sur l'interruption volontaire de grossesse, avec l'objection de conscience, c'est une loi avec accommodement raisonnable. Bon, alors, c'est pas toujours très marrant, l'accommodement raisonnable. Les femmes peuvent se dire, mais du coup, ça limite, etc. Mais en même temps, si vraiment quelqu'un est convaincu que l'avortement est un meurtre, s'il fait des avortements, à mon avis, il vaut mieux pas qu'il en fasse. Parce que je crois que les femmes qui le subiront, là, ça sera contre-productif. Donc effectivement, ce que je veux dire, c'est que des fois, une laïcité plus souple est une laïcité en même temps plus ferme, plus résistante. C'est un peu la fable du chêne et du roseau, si vous voulez. Une laïcité massive ne résiste pas à la tempête, une laïcité roseau est plus résistante. Alors l'accommodement raisonnable, c'est le principe justement d'accepter certains accommodements au cas par cas. Au Québec, c'est jamais pour un groupe, c'est toujours pour un individu. Alors, moi j'ajoute, face effectivement aux Québécois, qu'il faut faire attention, ça peut être récupéré par les groupes, c'est clair. Et donc, effectivement, il y a une vigilance à avoir, mais en même temps, si vous voulez, l'idée c'est quand même justement de faire ça au cas par cas, suivant les situations, suivant les individus, et avec cet aspect raisonnable. Alors raisonnable, c'est à la fois le coût, et ça ne doit pas avoir un coût excessif. Certains disent, oui, c'est du coup, là, c'est un critère capitaliste, etc. Mais il n'empêche que, même pour des associations, même pour des institutions, sans but non lucratif, etc., si évidemment ça coûte trop cher, ça pose un problème. Ça doit évidemment respecter les libertés d'autrui, ça ne doit pas contrevenir à des libertés d'autrui, ça ne doit pas désorganiser l'institution. Autrement dit, ça doit garder cet aspect raisonnable, mais on peut d'autant plus convaincre l'autre que justement on est dans le raisonnable et qu'il doit accepter le raisonnable qu'on se montre à contre-courant dans les limites du raisonnable. Et donc je crois que c'est important. Deuxième point, la laïcité n'est pas la religion civile. Un ordre public laïque est ordonné selon des principes qui, même si c'est désagréable de se le rappeler, ont varié historiquement. Autrement dit, par exemple, l'égalité homme-femme n'a pas été tout le temps une valeur de la laïcité. Maintenant, effectivement, cette valeur, c'est un principe, tant mieux, mais il faut se souvenir que l'image de la femme soumise à l'ordre clérical explique en grande partie le différentiel entre le droit de vote des hommes et le droit de vote des femmes. En France, c'est un siècle, dans la plupart des pays démocratiques, c'est 30 ans. Et parce qu'on avait l'image de la femme soumise, et en fait, heureusement, les femmes n'étaient pas si soumises que ça, au contraire, mais elles devaient ruser dans des structures où, officiellement, elles devaient être soumises. Si vous voulez. Mais croire que les femmes ne se sont libérées qu'à partir du moment où la législation a changé dans les années 60, c'est vraiment, si vous voulez, avant, par exemple, que les lois permettent le contrôle des naissances, etc., le nombre de femmes qui se passaient des adresses de bons curés, de bons médecins, c'était une manière de résistance. Bon. Donc il y avait des formes de résistance, il y avait des formes de libération, il y avait des formes d'émancipation qui existaient avant la vague des années 60 et 70. Bon. Et alors ça veut dire que maintenant il peut en avoir d'autres. Et qui peut avoir un féminisme musulman qui prenne d'autres formes que le féminisme des années 60 et des années 70. Et donc, si vous voulez savoir ça, c'est de ne pas confondre principe et dogme. La religion civile, Jean-Jacques Rousseau l'a définie comme l'imposition de dogmes qui ont trait à la morale, qui ont trait aux relations de chacun avec autrui, etc. Et, alors, c'est difficile à dire rapidement, là aussi, il faudrait prendre le temps de s'expliquer, mais j'ose le dire, si on impose l'égalité homme-femme comme un dogme, c'est contre-productif, parce que les gens ne peuvent pas intérioriser, parce qu'ils ne sont pas convaincus, si vous voulez, on les a contraints, on ne les a pas convaincus, et en plus, ceux qui le font s'y rattachent de façon sacralisée, sans voir tout le processus et toute la construction historique que ça demandait, et souvent sans aussi être attentif. Qu'est-ce qui menace l'égalité homme-femme? Ça peut se discuter. Ça peut se discuter. Sur le Québec, vous verrez, je montre que il y a eu des cas où on a estimé que l'égalité homme-femme était menacée, et d'autres cas où personne n'a estimé qu'elle était menacée, alors que ça se discute. À mon avis, c'était le second cas était aussi menaçant que l'égalité homme-femme, voire plus que le premier, mais j'ai pas le temps, et puis vous lirez le bouquin, donc en tout cas, si vous voulez, il y a la nécessité d'un débat démonstratif, d'un débat interprétatif, et dans ce débat, de bien séparer le croire et le savoir, si vous voulez, mais pour tout le monde. Et les croyances ne sont pas que religieuses, il peut avoir des croyances irreligieuses, on peut... Donc il y a une pluralité des féminismes, on l'a vu d'ailleurs avec la loi sur la parité, hein, où les femmes n'étaient pas d'accord, et bon, moi je suis pour la loi sur la parité, mais je suis sensible aux arguments, si vous voulez, sur les dangers de cette loi, et d'essentialisation des choses. Bon. Donc les choses ne sont pas simples, et il peut y avoir donc des débats à l'intérieur même de l'acceptation d'un même principe, et il peut y avoir une pluralité des attitudes, par exemple vestimentaires, hein, et alors là, je vais vous dire une piste qui va peut-être vous choquer, mais moi je serais aussi bien pour le droit que les femmes puissent être seins nus dans les forêts l'été que pour des femmes qui puissent avoir des vêtements qu'elles estiment être très pudiques et être très couvertes. C'est-à-dire que le fait pluriculturel de ces sociétés élargit, si vous voulez, les comportements. Et l'essentiel, c'est que ça n'aille pas que dans un sens. Mais il faut peut-être une certaine sobriété, disons, dans l'application des grands principes et de ne pas croire qu'ils sont menacés par tout incident. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut les tenir. Enfin, et je terminerai par là, ne pas avoir peur d'un avenir différent du passé. Et ça, c'est un grand problème. Et je comprends qu'on soit dans le malaise parce que On est peut-être en train de terminer un cycle historique qui a commencé au XVIe siècle, c'est-à-dire au moment où l'Occident a décollé par rapport à d'autres civilisations, notamment par rapport à la Chine. Au moment où il a opéré une première mondialisation à son profit, que le XIXe siècle a complété. Et aujourd'hui, l'Occident doit faire preuve d'un dynamisme dans un univers où il sera de moins en moins dominant. Et donc, on a se posé la question, est-ce qu'on n'a pas peur de l'autre à la mesure de notre crainte de ne pas être assez dynamique dans un univers concurrentiel, disons. Moi, personnellement, je vois une analogie profonde, si vous voulez, entre la montée du sexisme chez certains hommes musulmans, il ne faut pas se nier, parce qu'ils ont peur de, justement du fait que les femmes musulmanes sont en train de s'émanciper, et un certain occidentalisme, si vous voulez, conscient ou inconscient, qui a peur de la concurrence des pays émergents, parce que la mondialisation, ce n'est pas du tout la domination des États-Unis, comme certains l'avaient dit, mais c'est effectivement une pluralité des pouvoirs et des cercles importants dans le monde, et on est dans un monde concurrentiel, disons, où l'Occident n'est plus au centre. C'est lourde menace, il ne faut pas le cacher, mais c'est en même temps peut-être une chance. Parce que finalement, moi je crois que les hommes ont gagné dans l'émancipation des femmes. Et que, si vous voulez, le fait d'avoir à se poser la question « qu'est-ce que c'est être homme ?», c'est plus intéressant à partir du moment où il y a l'égalité homme-femme et où être un homme, c'est pas la normativité. Et le fait d'être un homme, c'est pas universel. Bon, et c'est ce qu'on a cru quand même, hein, longtemps. Bon. Donc, ça peut être une chance pour l'Occident, le fait que l'Occident ne soit plus dominant. Et à ce niveau-là, il faut dépasser les peurs, il faut dépasser les ressentiments, il faut savoir trier entre ce qui est essentiel et puis ce qui est plus accessoire. Et finalement, il faut arriver à inventer un nouveau universalisme où on sera partie prenante, mais qui sera en même temps un universalisme partagé. Je vous remercie.
Alors nous avons peu de frais, parce que effectivement, Jean Navarro nous a fait le plaisir de venir gratuitement à cette conférence. On a quand même fait son nom de trace. Nous avons d'assurance, donc voilà, nous avons mis un panier à la sortie pour pouvoir, voilà, l'affiche. Nous avons mis un panier pour les personnes généreuses qui vont nous aider à continuer. Et les programmes sont arrivés, donc pour les personnes qui partent, vous pouvez au départ, en partant, récupérer nos programmes pour l'année 2020. Alors moi, quand j'ai le micro, j'en profite parce que je vais réagir en tant que femme. J'ai été séduite par effectivement un certain nombre de vos propos et j'ai repensé à un ouvrage que j'ai lu d'une sociologue marocaine dont j'oublie le nom et qui a un de ses chapitres dans son ouvrage qui est intitulé « Taille 38, le tchador des femmes européennes ».
Bon, sur la première question, si vous voulez, on peut en penser beaucoup de choses. Hein. D'abord, si elles ont été à l'école privée, c'est leurs parents qui les ont mises. Hein. Enfin, quand on est à l'âge du lycée, c'est pas soi-même qui décide. Bon, la chose est différente si elles-mêmes, elles mettent leurs enfants à l'école privée. Hein. Mais si vous voulez, c'est à deux tiroirs. C'est-à-dire que, aussi bien on peut se dire qu'effectivement, elles sont des traîtresses à la laïcité, on peut aussi se poser des questions. Est-ce que ça veut dire que l'école publique remplit tout son rôle? Question à double tiroir. Est-ce que les institutions d'État lui donnent les moyens de remplir tout son rôle? Est-ce que les professeurs sont le maximum pour remplir tout leur rôle, hein? C'est à multiples questions. Et donc, voilà, je crois que là, ça serait une autre conférence que pouvoir trancher dans ce débat. Sur ce que je peux signaler, c'est qu'au niveau du Parti Socialiste, actuellement j'ai un blog qui s'appelle Jean Bobéro, laïcité.blogspirit.com, et après avoir pour 16 euros expliqué la laïcité à Nicolas Sarkozy, je l'explique gratuitement au Parti Socialiste.
Rapidement, par rapport à votre remarque, j'étais étudiant à l'école normale de Nîmes en 59. Oui. Nous n'avons jamais discuté avec les enseignants de la loi Debré qui était en train de naître. C'est pour répondre à votre question sur notre rôle d'enseignant, puisque j'ai jamais été un. Je crois que si nous avons subi des échecs, en progressant quand même, c'est que nous n'avons pas, enfin moi le premier, sauf plus tard en fin de carrière, où j'avais le courage d'eux, nous n'avons pas su discuter des problèmes de société avec nos élèves au nom de la laïcité. Ça, c'est grave. Ouais. Ne pas avoir le droit de dire pourquoi on fait grève, c'est pas fabriquer des citoyens. Et deuxième point, et puis j'arrêterai là, le problème pour nous, pour nos propres enfants, pour les miens, ils ont 35 ans, c'est que le fait religieux, si vous voulez, ne les touche pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas pratiquants, contrairement à ma femme et moi, où on est passé par là. On a eu du mal à s'en sortir, d'ailleurs, pour tout le monde. Mais donc, c'est plus, la laïcité n'est plus vécue comme quelque chose de bon laïque, religieux. Mais la difficulté, c'est de montrer ou d'expliquer maintenant, et dans le débat, je pense qu'on l'aura cette année, c'est que c'est un phénomène culturel.
Oui.
Culturel, religieux. Ça n'a plus rien à voir avec la foi. Bon, l'Église catholique, entre autres, on a fait perdre la foi, c'est un des gros problèmes, mais ce phénomène culturel du jeune n'existe et il n'y en a plus. Je veux dire, quand je retourne dans mon village à Russan, là, la messe est à Aubagne maintenant, il n'y a personne, quoi, pour les enterrements, oui, mais pas dans la pratique religieuse. Il n'y a même plus la culture religieuse. C'est-à-dire que si on aborde la laïcité uniquement en termes de religion, ouais. Ben, ça va être ce que vous avez fait là, mais vous avez ouvert à la fin, heureusement, par rapport à l'islam et aux religions qui sont en pointe actuellement. Et là, on a un gros problème, une grosse difficulté. Je veux dire, mes enfants, parler des combats laïques que nous avons pu mener, c'est pas évident pour eux, quoi. Je veux dire, c'est l'histoire de France qu'on ne connaît pas. Ils sont tous passés par l'école laïque.
Oui, alors, sur le premier point, effectivement, moi je crois que tout le problème pour les enseignants, et c'est pas facile, c'est à la fois de pouvoir discuter de problèmes de société avec leurs élèves et que les élèves aient bien conscience qu'ils peuvent être pas d'accord, si vous voulez. Parce que si l'enseignant parle, mais un peu en tant que gourou, c'est pas bien. Bon. Et donc, il faut que l'enseignant soit dans une posture qui n'est pas évidente, hein, qui n'est pas facile, qui est à la fois de jouer un rôle de formateur, mais en même temps de donner la possibilité à l'élève de ne pas être d'accord sans qu'il craigne, disons, avoir des représailles de la part de l'enseignant, etc. Donc c'est tout un art assez subtil. Moi, je vous avouerai, j'étais tout le temps prof dans le supérieur et souvent je me suis posé la question, mais j'aurais eu... Alors dans le supérieur, on a quand même des gens, si vous voulez, qui sont plus âgés, qui sont majeurs, etc. Mais j'aurais eu j'aurais été dans un collège, par exemple, des enfants de 12-15 ans, comment j'aurais fait? C'est pas évident du tout. Sur le second point, oui, c'est très intéressant parce que Le pluralisme, maintenant, c'est pas seulement le pluralisme, disons, horizontal des différentes convictions, religions, etc. C'est aussi le pluralisme vertical d'un mode d'adhésion qui va de l'indifférence la plus complète à des engagements intenses, minorités qui sont très médiatisées, des engagements intenses sur le plan religieux. Et la laïcité doit gérer tout ça. Et si vous voulez, elle peut être, mais de manière évidemment totalement différente, niée par les gens qui ont des engagements intenses sur le plan religieux et qui ne comprennent pas la nécessité d'un espace laïque. Et c'est là qu'il faut leur apprendre au moins la tolérance civile. Si ça n'a pas de sens pour eux, ça a un sens pour la société dans laquelle ils vivent et les gens ont des convictions diverses. Mais effectivement, c'est difficile à expliquer aux gens qui sont totalement indifférents et qui, du coup, peuvent ne pas voir le problème et pas être sensibles au problème. Bon. Alors, c'est vrai que c'est un passage sur lequel j'ai un peu sauté. La religion actuellement est une ressource culturelle, si vous voulez, pour un certain nombre de gens. Bon, voilà. Ça ne prend pas position sur ils ont la foi, ils n'ont pas la foi, ou l'intensité de leur foi. Mais du point de vue du sociologue, c'est une ressource culturelle, c'est-à-dire que dans une société de masse où la massification est très forte, et puis où effectivement il y a des injonctions style taille 38, style si vous n'êtes pas jeune, beau et dynamique, c'est que vous n'avez pas acheté la crème machin, le produit X, etc. Vous n'avez pas fait votre jogging tous les jours, vous n'avez pas mangé des produits Valpêcheur, etc. Donc c'est votre culpabilité. Bon. Face à tout cela, il y a évidemment un certain nombre. Alors c'est pour ça aussi que c'est très bien que vous avez parlé de besoins spirituels ou de spiritualité, si vous voulez, parce qu'il y a des besoins qu'on peut qualifier de spirituels qui sont plus larges que des besoins religieux. Hein, qui sont plus larges que des besoins religieux. Et bon, il y en a qui peuvent le trouver en dehors des traditions religieuses, et moi personnellement je milite pour qu'il y ait, comme en Belgique, des vis-à-vis humanistes, si vous voulez, dans les hôpitaux, dans les prisons, etc., pour les gens qui se posent des questions sur le sens de la vie, en dehors des traditions religieuses, qu'ils aient un vis-à-vis comme des protestants et des catholiques ou des juifs, et maintenant les musulmans peuvent avoir un aumônier. Mais il y a des gens bon, qui, d'ailleurs, en bricolant souvent, de manière beaucoup plus individualisée que par le passé, vont aussi utiliser des matériaux symboliques religieux, etc. Bon. Et donc, c'est ça que la laïcité a géré. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question avant la conférence, mais pourquoi vous parlez de culturel et pas de cultuel ? Et moi, je lui ai répondu, je mets le cultuel dans le culturel. Je mets le cultuel dans le culturel. Ce qui n'est pas, ce qui nie pas le fait que les gens qui croient peuvent avoir la foi, etc. Mais du point de vue de l'historien, du point de vue du sociologue, du point de vue de la réalité empirique, si vous voulez, des religions, hein, ça fait partie des ressources culturelles et des identités culturelles. Bon. En sachant que, justement, dans d'autres phénomènes culturels, il y a aussi, moi j'ai un beau-frère qui est vietnamien, qui est passionné par la culture bretonne, qui a appris le breton, etc., et qui est vietnamien de culture bretonne, je dirais. Bon, et ça fait bizarre, mais justement, si on n'essentialise pas les choses, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et donc voilà, il faut une laïcité qui tienne compte de ces phénomènes-là, qu'ils soient religieux ou non religieux, et qui sache organiser un vivre ensemble pacifique, où chacun respecte l'autre, et où la liberté est assurée de manière la plus égale possible pour tous, dans cette nouvelle situation. Et c'est pour ça que je pense que le thème de la laïcité interculturelle a de beaux jours devant lui, parce que je crois que c'est un des défis de notre 21e siècle.
Sous-jacente dans un pays démocratique qu'une minorité que les comportements d'une minorité deviennent majoritaires et donc que cette ex-majorité devienne minorité. Voilà. Et puis d'autre part, je peux poser une autre question, et que faites-vous du métissage ?
Pardon,
que faites-vous du métissage culturel ? Ouais.
Alors bon, d'abord Il y a 23 ans maintenant, le Figaro Magazine avait un grand titre en disant « La France sera musulmane dans 30 ans ». J'attends encore 7 ans pour voir si la France est devenue musulmane ou pas. Mais enfin, 23 ans après, on n'en est pas quand même tout près. Bon, donc, si vous voulez, effectivement, il y a cette peur, mais cette peur, elle est entretenue, elle est alimentée. Il y a une baisse de la démographie de la population d'origine maghrébine qui est loin d'être toute musulmane en plus. Hein. Sous prétexte qu'on ne doit pas faire de recensement par religion, quand on dit il y a 5 millions de musulmans, on met tous les gens qui viennent de pays de culture musulmane. Mais dans ces gens-là, il y a des gens qui ne sont pas plus musulmans que certaines personnes nées catholiques ne sont catholiques. Hein. Bon. Après, il y a des non-pratiquants, des pratiquants irréguliers, etc. etc. Bon, il y a une pratique régulière qui est un peu plus élevée que pour le catholicisme, etc., et qui est évaluée à peu près à 20% des musulmans. Le catholicisme, c'est 8 à 10%. Bon. Là encore, on est des rattachements qui vont de l'indifférence à l'intensité en passant par des degrés très forts. Donc, je crois que déjà, donner ce genre d'informations, ça peut décontracter les gens parce que, bon, et puis entre les musulmans aussi, alors on a surtout des sunnites en France, mais il y a les sunnites et les chiites, vous savez qu'il y a des tensions internes, etc. Bon, donc, faire un bloc en disant la France va être envahie par l'islam, entre guillemets, ça fait fi de la diversité des rattachements à l'islam, des tensions internes qu'il peut avoir entre musulmans, des autres identités. Ça aussi, je l'avais mis dans mes notes et je n'ai pas eu le temps d'en parler. Ce qu'il faut viser, c'est que l'individu soit pluri-identitaire. Ce n'est pas qu'il soit citoyen abstrait, dépouillé de ses identités, c'est qu'il n'ait aucune identité englobante. C'est-à-dire que moi, je suis protestant, je suis limousin, je suis gaucher, dit contrarié, mais en fait, qui était très réprimé par des chers instituteurs. Je suis homme, j'ai un certain âge malheureusement, bien que je me sente toujours jeune quand même, bon, etc. etc. Bon. Et puis j'ai une histoire personnelle, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont influencé, ou d'autres que j'ai contredit, etc. Bon. Et tout ça, ça fait la résultante, disons, de ce que je suis. Et puis je le dis pour moi, mais vous pouvez le dire pour chacun d'entre vous. Bon. Et l'important, c'est qu'effectivement, personne ne soit englobé par eux. Bon. Et à mon avis, justement, on n'est pas englobé si on n'a pas un pouvoir, si vous voulez, qui vous englobe. Je crois quand même que la tendance de chacun, c'est de vivre dans la pluralité. Et donc, effectivement, c'est pour ça que je dis dans l'accommodement raisonnable, le bémol, moi, que j'ai mis par rapport à nos amis québécois, c'est de dire très bien que ça soit accordé à l'individu. Attention qu'en amont ou en aval, il n'y ait pas un groupe qui s'en empare pour imposer un comportement à des individus. Bon, ils sont sensibles à ça, mais ce n'est pas évident. Bon, mais voilà. Mais à partir du moment où on comprendra que l'individu est pluri-identitaire, et où on comprendra d'ailleurs que chacun peut être majoritaire et minoritaire à la fois. Je suis hétérosexuel, bon, mais je serai homosexuel, je serai blanc majoritaire et homosexuel minoritaire. Bon, je suis, en tant que gaucher contrarié, je suis minoritaire parce que je me heurte tout le temps quand même à un monde qui est fait pour les droitiers, etc. Bon, mais je suis professeur, donc je suis un peu aussi dans la classe dominante majoritaire, etc. Je suis à la fois majoritaire et minoritaire. Et vous aussi, vous êtes certainement par des aspects majoritaires, par des aspects minoritaires. À partir du moment où on a cette vision des choses, on est plus décontracté, il me semble, et on est moins dans la peur, dans la menace, dans... Alors, le métissage, quand je parle d'interculturalisme, il y a cette vision du métissage, parce que par rapport au multiculturalisme, qui risque, bon, c'est pas forcément le cas, hein, mais effectivement, il peut avoir un multiculturalisme de la juxtaposition, hein, où chacun est dans ce monde. Mais l'interculturalisme, c'est quand même la vision de trajectoires qui vont s'enrichir, qui vont se féconder, qui vont, etc. Mais quand je disais tout à l'heure que les Lumières invoquaient Confucius et qu'ils connaissaient Confucius grâce aux Jésuites, On était déjà dans un certain interculturalisme, puisque finalement, il y avait des passerelles qui faisaient que les choses bougeaient et que chacun était porteur de certains matériaux culturels et le donnait aux autres, etc. Bon. Et c'était avec des effets assez amusants, puisque les jésuites, finalement, étaient allés en Chine pour évangéliser les Chinois. Là, ils sont aperçus que les Chinois n'étaient pas des sauvages, incultes, et qu'il y avait toute une civilisation très riche et tout ça. Et donc, ils ont voulu accommoder le catholicisme à la Chine, et ça a été l'affaire des rites chinois. Et ils ont été condamnés par Rome, etc. Bon. Mais ils ont popularisé la figure de Confucius et de la civilisation chinoise en Occident, qu'ont repris les Lumières contre la société de chrétienté. Bon, donc vous voyez tout un parcours où les choses changent, où chacun apporte sa pierre, où il y a de l'interaction, etc. Bon, donc je crois que c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut être, et que à ce niveau-là, ça donne quand même un relatif optimisme, si vous voulez. Et alors, même si cet optimisme n'a que, disons, 50% de faits empiriques qui le confortent, et il y aurait même 50% de faits qui seraient contre, je crois que stratégiquement, il faut être optimiste. Parce que c'est le seul moyen que les 50% passent à 70%, si vous voulez. Si vous baissez les bras, alors c'est sûr que les 50% de menaces vont devenir majoritaires. Si au contraire, vous avez une politique un peu volontariste et même que vous avez un certain rapport à l'utopie, alors vous pouvez arriver à changer un certain nombre de choses. Max Weber, qui était pourtant le sociologue le plus dans ce qu'il appelait la neutralité axiologique, etc., disait, c'est en croyant et en tentant l'impossible qu'on arrive à réaliser le possible. Et c'est ça, peut-être, justement, qu'on a perdu comme posture et qui alimente nos peurs. Si on est persuadé qu'on peut être dynamique, qu'on peut arriver à que, justement... Quand vous allez au Québec, ils parlent l'accent du 17e siècle. Bon, ben, c'est plus l'accent d'aujourd'hui, bon, etc. Et c'est pas grave. Bon, donc il y a une sorte de frilosité, de peur du changement, parce que finalement, on a l'idée inconsciente que le changement amènera quelque chose qui sera forcément moins bon que ce qui existe actuellement. Bon. C'est pour ça que chacun se crispe sur ces maigres avantages acquis, mais bon, il faut oser sauter dans l'inconnu et bâtir cet inconnu. Et c'est comme ça qu'il sera le plus vivable possible, disons.
Oui, je voudrais revenir sur la notion d'accommodement raisonnable que vous avez posée tout à l'heure. Vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut que ce soit individuel, que ce soit récupéré par un groupe. Mais est-ce que le phénomène religieux, par définition, n'est pas toujours relié à une communauté religieuse, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas jamais individuel, ou presque jamais?
Vous savez, l'Église catholique, dans sa hiérarchie, est contre les moyens contraceptifs. Et même les gens qui vont régulièrement à l'église utilisent des moyens contraceptifs. Et pas seulement en France, en Italie, vous avez une pratique religieuse qui est beaucoup plus forte qu'en France. Et l'Italie est le pays, avec l'Espagne, autre pays catholique d'origine, le pays où il y a la démographie la plus basse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens, ils en prennent, ils en laissent. C'est-à-dire que il y a un compte à soi religieux, si vous voulez. Bien, quand on soit religieux, et on pourrait dire que dans la religion elle-même, il y a un pôle clérical et un pôle laïque. Vous savez qu'au départ, laïque, c'est celui qui n'est pas un clerc. Bon. Alors, il y a un pôle clérical, et disons ce pôle clérical, ça va être celui des gens pour qui la religion, c'est toute la vie, si vous voulez. Bon, ce que Weber appelait les virtuoses en matière religieuse, c'est une manière assez laudative de les qualifier. Bon. Et puis, vous avez le pôle laïque. Et le laïc, il a toujours été quelqu'un qui triait, hein, qui à la fois voulait les secours de la religion, voulait pouvoir être baptisé, enfin, pour ceux qui étaient chrétiens, baptisé, marié, enterré, toujours face à la première communion, parce que c'était une sorte un peu de brevet de moralité, etc. Mais ça ne voulait pas dire qu'il obéissait au curé en tout. Bon. Et c'est ce qui se passe aussi chez les musulmans, c'est ce qui se passe aussi dans les autres religions. Il y a une individualisation de la religion, justement parce que les gens sont pluridentitaires et qu'ils ont plusieurs facettes. Bon. Où on en prend, on en laisse. Bon. Alors évidemment, il y a une célébration collective du culte, évidemment, il y a des rassemblements communautaires. Mais ça ne veut pas dire forcément que les gens sont tous... d'accord et pensent tous pareil. Et je vous dis encore une fois, la transgression, et même au niveau du contrôle des naissances, les gens n'ont même plus l'impression qu'ils transgressent, hein, quand ils emploient des moyens contraceptifs. Et donc, je crois que les religions ne sont pas à prendre comme elles prétendent être, si vous voulez. Il faut déconstruire un petit peu le discours. C'est une communauté d'individus qui sont très largement autonomes, hein, qui ont des moments communautaires et puis des moments où eux-mêmes ils ont des âges. Bon, ils sont à des classes sociales différentes, ils ont des âges différents, ils sont aussi dans des backgrounds culturels différents, etc., etc. Donc c'est pas ipso facto, si vous voulez, le groupe peut pointer, je suis d'accord, parce que le groupe, il peut avoir des leaders, si vous voulez, qui essayent de prendre le pouvoir sur les autres, ça toujours. Mais c'est pas ipso facto que ça se passe ainsi, c'est pas mécaniste.
On prend juste deux dernières questions, parce qu'il faut après qu'on vous laisse le temps de se libérer et de ne pas manquer votre train.
D'accord.
On va passer toute la nuit, mais d'abord, Donc, deux dernières questions.
Oui, je voulais vous demander s'il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une Europe qui se met symboliquement sous l'emblème de la couronne mariale avec ses étoiles sur fond bleu, et qui est composée de pays qui ne connaissent pas le sens du mot laïcité, qui ne l'ont même pas souvent dans leur vocabulaire, et qui ne pratiquent pas la séparation de l'Église et de l'État.
Alors, vous savez...
On peut pas juste poser une question, vous répondez sur la question.
On a beaucoup parlé de religion en lien avec la société, de laïcité, mais j'aurais aimé qu'on puisse lier tout ça avec la spiritualité, parce que c'était quand même le thème, ça va être le thème qui nous a emmené dans cette université, et j'en ai très peu entendu parler ce soir.
Oui, donc j'ai été très intéressé par une série d'éléments, mais je me demande si le problème, quand vous avez indiqué que les dangers que l'idéal masque les discriminations, c'est que c'est le problème entre l'idéal et la prise en compte des dominations. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui pensent que reconnaître qu'il y a des dominations, des inégalités, des discriminations, ça met en cause l'idéal. Alors, et certains, par exemple, dans l'école, on récusait fortement les constats de Bourdieu sur la reproduction scolaire, parce qu'en disant que ça mettait en cause, de dire qu'il y a de l'inégalité, ça mettait en cause l'idéal républicain d'égalité. Bon. Donc il y a un danger d'utiliser l'idéal, et l'idéal laïque, l'idéal des Lumières, comme quelque chose qui masque les dominations et les discriminations, et voir parfois, et on a connu ça avec George Bush, qui utilise l'idéal dans une logique de domination. Bon. C'est la guerre du bien contre le mal. Et donc, il faut faire attention parce que les idéaux peuvent être utilisés comme instrument de domination aussi. Et puis, il y a ceux qui critiquent les dominations, les discriminations, mais qui oublient l'idéal. Et je pense qu'il faut réenclencher le rapport. C'est-à-dire, si on critique des inégalités, des contraintes, des oppressions, c'est au nom d'un idéal. Mais cet idéal, justement, c'est un idéal. Donc, il n'existe pas encore. Donc, on doit prendre en compte, on doit réinsérer ce rapport entre l'idéal et la critique des dominations. Ça instaure, je pense, moi, ce que j'appelle une éthique de l'inquiétude. Parce que soit l'idéal, on le prend comme une massue, on assomme les gens avec, soit on sent qu'il y a une fragilité dans la réalisation de l'idéal. On n'est pas sûr que, soit qu'il ne masque pas des formes d'inégalité qu'on ne voit pas, soit qu'on ne va pas l'utiliser pour assommer les autres. C'est pour ça que moi, je préfère parler de lumière tamisée, parce qu'il y a des défenseurs dans certains camps laïcs des lumières aveuglantes. C'est la lampe qui est dans la gueule du jeune au commissariat, les lumières aveuglantes. C'est-à-dire celle qui peut empêcher d'oublier qu'il y a des dominations, des discriminations. Et puis, il y a ceux aujourd'hui dans le monde dit postmoderne qui veulent éteindre les lumières. C'est le relativisme, ça n'a plus de sens, il n'y a plus de valeur, etc. Et donc, je pense que là, il y a à introduire une inquiétude, mais qui n'est pas un refus des valeurs et des idéaux, mais réenclencher le rapport entre ces idéaux et la critique des pouvoirs, des dominations, des oppressions qui existent réellement dans la situation.
Oui, moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit que pour moi, si la loi sur la parité est une bonne loi, mais qui devrait être temporaire. Bah, parce que moi, ce que j'espère, c'est qu'un jour, justement, il n'y aura plus besoin de la loi sur la parité pour que hommes et femmes aient des chances égales, si vous voulez, d'accéder aux responsabilités, et que ça se fasse tout naturellement. Moi, je vois cette loi comme une loi nécessaire de manière transitoire, et j'espère qu'un jour, elle sera dépassée. Je crois que ça répond un peu à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, au nom de l'idéal, on est tous égaux, masquer le fait que dans la réalité, ce n'est pas le cas, et il ne faut pas que la loi aboutisse à déterminer, ça doit être toujours 50%, bon, en plus, c'est pas 50%, c'est pas ça, mais supposer que ça soit ça, que du coup, l'Assemblée nationale, ça soit 400 personnes, 200 femmes, 200 hommes, bon, ça serait pas non plus merveilleux comme manière de procéder, ça essentialiserait le fait qu'il y ait des hommes et des femmes, alors qu'ils ont 10 000 autres caractéristiques. Donc effectivement, je me retrouve tout à fait dans ce que vous dites. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien parler d'universalisme à construire. C'est-à-dire que je n'abandonne pas l'idéal universaliste, mais je dis que les gens qui font comme si l'universalisme était déjà là, très souvent, c'est ethnocentré leur universalisme. Bon. Donc, c'est l'universalisme, c'est en devenir, c'est à construire, c'est quelque chose qui est devant nous et qui doit nous mouvoir et nous aider. Bon. Alors, sur l'Europe, les choses, là encore, hein, c'est très difficile d'en parler en quelques minutes, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que, bon, ce que vous dites est vrai, mais ce n'est pas du tout la totalité des choses. C'est-à-dire que même un pays, par exemple, comme la Norvège, qui a une église nationale, et l'église nationale a des contraintes, hein, je ne le dis pas, mais la Cour suprême norvégienne, par exemple, à propos d'un pasteur qui avait râlé parce que l'église protestante de Norvège est contre l'avortement, alors que la plupart des églises protestantes admettent qu'on est moins normal, mais l'église de Norvège est contre. Donc un pasteur a introduit un recours devant la Cour suprême quand il y a eu une loi autorisant l'avortement, et la Cour suprême a dit « c'est pas parce qu'il y a une église nationale que l'État doit mettre ses lois en accord avec les normes morales et religieuses. L'État est un État de tous les citoyens, y compris ceux qui ne sont pas membres de l'église nationale. Bon. » Ben voilà un élément de laïcité dans un pays qui n'est pas laïque. C'est clair. Bon. Et c'est important. Bon. Donc on ne peut pas dichotomiser les pays laïcs, les pays qui ne sont pas laïcs. D'autant plus qu'il s'est passé quand même quelque chose d'assez intéressant dont vos journaux n'ont pas parlé, c'est que il y a un processus de plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Les dossiers sont d'abord examinés par la Commission européenne qui dit s'ils sont recevables ou pas. Bon. Et après, la Cour tranche. Bon. Il y a eu une plainte de l'Union des athées parce qu'elle n'était pas même sur le même plan que les organisations religieuses au niveau des avantages financiers. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, il y a des avantages financiers indirects qui sont consentis aux religions. La Commission a dit que la plainte était recevable et même a fait comprendre à la France, diplomatiquement, que probablement la France serait condamnée par la Cour européenne. La France a mis l'Union des athées aux normes. Et sinon, elle était condamnée par la Cour européenne pour inégalité envers l'Union des athées. Bon. Donc la Cour européenne, à ce niveau-là, est un garant de laïcité par rapport à la France. Bon. Et dans l'affaire de la poupée vaudou de Nicolas Sarkozy, quand vous voyez les attendus de la Cour d'appel, Ces attendus de la Cour d'appel reprennent presque terme pour terme les attendus de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France pour atteinte à la liberté d'expression au moment même des caricatures de Mahomet. Là aussi, on a parlé beaucoup des caricatures de Mahomet, bien sûr, mais on a fait deux lignes dans Le Monde et aucun commentaire à la télé sur la condamnation de la France pour atteinte à la liberté d'expression. Et c'était un écrit d'un juif contre Jean-Paul II. Hein, Et la Cour européenne a dit, certes, c'est excessif, etc., mais ça fait partie d'un débat, mais ça fait, etc., etc. Et dans l'affaire d'Apple-Vaudou, ça m'a intéressé de voir que la Cour d'appel reprenait les mêmes attendus. C'est une manière de dire au chef d'État, attendez, vous voulez qu'on condamne, mais si on condamne, on risque d'être retoqué par la Cour européenne, alors permettez-nous de ne pas condamner. Donc, il faut bien voir quand même que le fait que les droits de l'homme sont détachés de la nation, de l'État-nation, est un progrès par certains côtés. Je ne dis pas que la Cour européenne est infaillible, mais malgré tout, c'est un progrès, c'est une garantie de pouvoir réclamer contre son État de par une juridiction. Bon. L'Europe est beaucoup moins dangereuse qu'on le dit, et l'Europe a souvent condamné... l'Europe ne s'occupe pas, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'occupe pas des relations Église-État, mais elle s'occupe des conséquences que ces relations Église-État peuvent avoir sur la liberté de conscience des individus. Elle a condamné la Grèce, elle a condamné la Suède, et la Suède, à la suite de la condamnation, s'est engagée dans une démarche et a réalisé une relative séparation de l'Église et de l'État, etc. Donc, il y a une laïcité européenne qui... mais peut-être pas complète, etc., mais qui existe et qu'on ignore trop souvent en France. Sur la question sur la spiritualité, vous allez en entendre parler tout au long de l'année, mais ce n'était pas mon sujet. Mon sujet, c'était le contexte, si vous voulez, dans lequel des libres expressions spirituelles peuvent se dérouler. Et donc, un peu de patience, je suis d'accord, j'en ai pas parlé, sauf de manière indirecte quand j'ai dit sur les besoins de sens. Hein. Bon. Mais je crois que justement, avant de parler de la spiritualité, c'est pas mal de parler du contexte historique et social dans lequel elle peut se dérouler, parce que c'est une manière aussi justement de recadrer les choses et de ne pas en parler un peu, si vous voulez, comme si ça flottait en l'air, etc. Les besoins de spiritualité et les offres de spiritualité se font dans un certain contexte, et c'est de cela dont j'ai tenté de parler aujourd'hui, bien ou mal, ça c'est à vous d'en juger.